Au campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.
Bonjour et bienvenue dans le 242e numéro de l'écho des glous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Cette semaine et aujourd'hui, je suis donc en direct avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Suite à une rediffusion impromptue il y a deux semaines, c'était le best-of des dédicalisations. D'autres best-of suivront soit pendant les vacances, soit pendant
les bronchites,
pendant les bronchites ou toute autre période d'indisponibilité. C'est donc l'actualité des 4 semaines écoulées qui vont vous être présenté et on va commencer par des nouvelles internet et vie privée et on va vous parler des clouds de confiance puisque vous savez ça commence quand même à engendrer une certaine méfiance le cloud. Alors, on commence quand même à se poser des questions après la période d'euphorie le cloud c'est bien mangeant. La question de la localisation des données, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est sous les juridictions françaises, est-ce que c'est soumis au Patriot Act américain. Bon, les entreprises ont quand même commencé à se poser des questions, les particuliers aussi, donc les SS2I françaises, les sociétés informatiques françaises ont quand même commencé à vouloir répondre à ces interrogations, mais souvent en s'alliant avec des partenaires américains.
Tout à fait. Alors, juste une petite correction
Orange
sur ton introduction.
Avec, je ne sais plus d'ailleurs.
Oui, à force, on ne sait plus trop. Je ne sais plus avec lequel c'est Orange. Je ne sais plus si eux, c'est pas Microsoft. Et donc, petite correction sur ton introduction. Tu parlais de se défendre du Patriot Act, notamment. Le Patriot Act lui-même n'est pas la menace qui nous concerne ici. La menace qui nous concerne, nous, en Europe, quand des données sont hébergées par un hébergeur américain, enfin par la filiale européenne d'un hébergeur américain, le Patriot Act ne s'applique pas.
C'est le oui,
Cloud Act.
C'est le Cloud Act. Mais
tout
merci
à fait.
Pierre.
Je savais
qu'il y avait
soyons
un peu
précis.
Dedans.
Soyons précis. Et donc, la réaction de nos dirigeants et de nos chères entreprises, c'est de dire ah ben et donc là on en parle parce qu'il y a une petite annonce. Donc c'est Amazon Web Services, donc l'un des plus grands cloudeux du monde, hein, mais évidemment cloudeux américain, qui décide de s'allier avec Atos pour préparer une offre de cloud de confiance. Donc leur but c'est de proposer les services cloud sur une infrastructure isolée des législations extraterritoriales. Et donc qui sera piloté par le groupe Atos, le groupe français Atos, indépendamment des États-Unis.
Alors, ce qui m'étonne quand même là-dedans, c'est que Atos c'est quand même un fournisseur d'infogérance qui s'allie avec une entreprise qui propose un service d'hébergement. Pourtant, alors je sais que Atos essaie un petit peu de se débarrasser de cette filiale-là de data center, mais pour quelque chose qui était quand même à la base dans leur cœur de métier, ça pose quand même question. Parce qu'une autre grande entreprise française s'est alliée avec Google, mais Google met à disposition les logiciels qui utilisent la suite Google, enfin Gmail et toute la tripaille, mais hébergés dans une infrastructure de cette entreprise française. Donc là, j'ai un peu plus de mal à comprendre l'intérêt pour Atos. À moins de dire, au final, on n'est pas assez bon, il faut qu'on utilise des serveurs d'Amazon.
Alors, là, en l'occurrence, dans le cas d'Atos, c'est bien que tu en parles, parce que c'est à croire que tu as lu l'article avant. Donc, l'activité d'infogérance d'Atos est en chute libre.
Ah mais ça, oui, c'est courant, oui, mais ça, c'est cool.
Le groupe Atos avait l'intention déjà avait déjà annoncé en juin une scission avec la partie infogérance d'un côté et le reste de l'autre. Donc du coup, il n'y a pas de conflit, puisque le nouveau truc partira dans l'autre bloc.
Ouais, mais c'est justement d'où mon interrogation, c'est qu'ils étaient en train de céder, c'est de se débarrasser de leur filiale infogérance, et au final, ils proposent un produit. En fait, voilà, en gros, c'est ça. C'est en gros, on n'est pas assez bon pour faire l'infogérance. Enfin, c'est pas rentable de le faire chez nous, et c'est plus rentable de le sous-traiter.
Mais
un peu ce que dit Atos au final.
Exactement. C'est exactement ça. C'est plutôt que d'accepter de former des gens. Ça, c'est gros mot, hein. Attention, hein. Former des gens, avoir du capital humain, pour essayer de parler un peu plus capitaliste. Plutôt que de former des gens, les monter en compétences, on va dire, il n'y a pas de logiciel sur le marché qui peut répondre aux besoins des gens en face. Donc, on va prendre la solution clé en main d'Amazon et hop, on va la déployer nous-mêmes. C'est... En fait, c'est un constat d'échec majeur, c'est de dire, bah, on sait pas faire, mais c'est pas grave, hein, Amazon, ils vont nous montrer comment qu'ils font. Au final, la valeur ajoutée qui est de savoir faire ça, le savoir-faire, va rester dans les mains d'Atos, la maîtrise complète dans les mains d'AWS, désolé, je bafouille, la maîtrise complète restera dans les mains d'AWS, puisque ce seront eux qui décideront des évolutions, des éventuelles restrictions techniques. Il y aura sûrement des ratés, parce que la copie est pas souvent aussi bonne que l'original, et là, ça sera une copie de ce que fait AWS. Moi, l'ensemble me paraît complètement baroque, et c'est ce qui m'attriste, c'est que c'est systématiquement, c'est des constats de... C'est des aveux d'impuissance, c'est des constats d'échec. C'est, on sait pas faire, prenons le produit américain et déployons-le chez nous. Il y a que ça, de toute façon, c'est bon, ça fera plaisir aux gens. Alors que il y a eu une autre annonce autour de ça, c'est avec NumSpot, donc dans l'idée de faire un cloud de confiance 100% français. Et là, il y a déjà un petit peu plus d'intelligence, même si, ben, c'est, par contre, c'est le combienième de cloud de confiance français. Moi, je ne sais plus à force, il y en a eu tellement.
Ouais, c'était Orange et Microsoft le premier.
Oui, mais il y a eu des autres projets aussi. Il y a eu un projet avec Bull à une époque. C'est vraiment, c'est là ils essayent de concurrencer, mais là à nouveau, ils se rendent pas compte. Par contre, de comment les offres de cloud américaines sont apparues, c'est pas des grandes entreprises avec un rythme de pachyderme qui se sont mises autour de la table pour mettre une solution en marche. C'est des entreprises, c'est des Google, Amazon, Microsoft qui ont développé leur solution pour leurs usages et qui se sont dit bon bah on a développé un truc pour nos usages. Et bien maintenant, on va le vendre aux autres. Comme ça, on re-rentabilise quelque chose qu'on a déjà dû faire une fois. Et là, il n'y a pas du tout cette logique. Là, la logique, je ne sais pas laquelle ça sera. Ce sera copié, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est voilà, il y a plein de gros mots, c'est avec des certifications dans tous les sens, ceci, cela. Alors là, en l'occurrence, c'est... DocaPost, Dassault Systèmes, Bouygues Télécom et la Banque des Territoires qui se sont associés. C'est rien que de la
belle
petite
brochette, ouais, une belle brochette de partenaires institutionnels.
Exactement. Donc, est-ce que avec ça, ça va marcher? À suivre. Je ne sais. Je chercherai un moment, je ferai un best-of des clouds souverains. Ça a l'air rigolo si j'ai envie de me suicider dans mes recherches.
On nous dit sur RC que tu as l'air énervé. Il y a une nouvelle qui est également très énervante, très triste. Hein, c'est Gim qui fait l'objet d'un parasitage. Et une fausse pub, en fait, emmène les utilisateurs. Via une recherche Google, donc à cliquer sur un lien qui n'est pas celui du projet GIMP, mais celui d'une version avec un malware.
Exactement. Ça, c'est...
Ça, c'est courant. On appelle ça le syndrome 01.net. Pardon.
Pardon, le syndrome quoi ?
01.net.
Là, 01.net. D'accord, j'ai... Oui, effectivement. C'est vrai que c'est les bons souvenirs de l'époque. Parce que c'est quelque chose... Alors, c'est vrai que j'en entends plus trop parler maintenant.
01.net, hein, pour ceux qui ont... Pas forcément la référence, oui. Hein, c'était voilà, un site qui proposait donc des logiciels en libre téléchargement, et notamment des logiciels libres, et qui en profitaient pour refourguer des malwares, des logiciels publicitaires, alors que vous pouviez vous procurer ces logiciels de manière tout à fait légitime par les sites des projets. Donc on utilise un peu cette faille, c'est un logiciel libre, on peut le redistribuer et ça engouffrait un petit peu dans cette brèche-là. Et comme souvent, alors, ils étaient mieux référencés, souvent ils payaient des annonces pour être dans les premiers résultats. Alors, c'est un peu... Donc des projets comme Firefox, c'est que LibreOffice ou OpenOffice à l'époque étaient beaucoup victimes. Donc, GIMP. Et là, on est quand même sur carrément une autre échelle.
Ah ben oui, là c'est acheter des publicités en ligne. Donc déjà... Rappel, la publicité en ligne, c'est de la merde. C'est vouloir faire croire que c'est gratuit, alors que ça ne l'est pas. et tout un, enfin tout ce qui est en entreprise a un coût. Et plutôt que d'accepter que ce soit payant et de faire payer le vrai prix des choses, on se dit, eh ben, on va matraquer la publicité. Et l'une des dérives possibles dans le monde de du logiciel informatique, c'est celle-là. C'est donc une entreprise, un groupe malveillant en tout cas, qui a pu acheter donc le mot-clé GIMP ou GIMP.org, je sais pas lequel des deux, sur Google. Et lorsqu'on cherchait, ça redirigeait non pas sur GIMP.org, mais sur un GIMP.org ou quelque chose comme ça, j'ai pas...
C'est les méthodes de phishing, ça.
Ah, exactement, c'était du pur phishing. Le seul truc qui faisait qu'on pouvait éventuellement se rendre compte qu'il y avait un souci, c'était que l'exécutable à télécharger, au lieu de faire 5 mégaoctets, la taille de l'exécutable de GIMP, il en faisait 700.
Après, il faut savoir ce qu'est la taille d'un exécutable de GIMP.
Exactement.
Après, tu dis GIMP, gros logiciel...
700 mégas, c'est un CD-ROM complet quand même, hein. C'est beaucoup.
Il y a des gens pour lesquels c'est pas oui, forcément... Oui. Toi, tu sais qu'un exécutable de GIMP de 5 mégas, bon, 700 ah, oui, mégas...
Ça, moi, 700 mégas, par contre, qu'est-ce qui se passe? Mais, petit rappel...
T'as un gros malware quand même.
Ah oui, ça... non, en fait, c'est une astuce qui permet de contourner certaines sécurités. Parce qu'on peut garder des bouts de signature valides quand on fait du padding comme ça et tout, c'est très rigolo.
Ça mérite presque une dégicalisation.
Ouais, mais...
J'ai... Pas ce soir, t'as
ouais,
mal à
pas
la
ce
tête.
Soir, ouais. Non,
il y a
vraiment.
Une autre dégicalisation prévue.
Et du coup, bah, voilà. La preuve que la distribution de logiciels, bah, en fait, les paquets sur les distributions Linux, c'est pas si mal. Hein. À la fin, au moins, on sait d'où viennent les logiciels et ils sont tamponnés.
Alors, celle-là, tu vas nous expliquer GitHub Copilot attaqué pour violation de licence.
Oui, il était temps, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est GitHub Copilot? À ton avis, Alexandre, avec le nom, qu'est-ce que ça peut être?
C'est en lien avec GitHub et ça t'aide à utiliser les outils de GitHub.
Ah. Non, non, c'est plus vicelard que ça. C'est un logiciel qui s'intègre à ton environnement de développement. Bon, ça s'intègre dans Visual Studio Code puisque GitHub a été racheté par Microsoft. Et Microsoft édite Visual Studio Code. Et donc, c'est un copilote qui t'aide à écrire ton code source.
Ah oui, c'est le oui, tu en as déjà parlé, c'est le projet qui va récupérer dans ta gauche des bouts de code dans développer.net et le site du zéro et
non,
tous les
non,
forums.
Non,
et...
Il...
Ah non, non, pardon, c'était dans la base de GitHub, pardon.
Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est violent, c'est que ça, ils ont décidé d'analyser tout le code source qui était disponible sur GitHub, donc avec des licences libre et open source dans l'eau, y compris des licences GPL, des licences avec des vraies règles à respecter, et ils ont injecté tout ça dans un moteur d'intelligence artificielle. Et ils estiment que ben, ce que sort derrière le moteur d'intelligence artificielle quand il crée du code, ils estiment que ce code n'est pas soumis au copyright du code qui a servi à l'enseignement. Or, on peut démontrer que ça sort exactement, quasiment à la virgule près, le code de départ. Parce que ça a bien appris sa leçon.
C'est parce que Microsoft n'aurait pas mis le code de Windows, par exemple, dedans.
Non.
Ah, c'est étrange, là. Hein, avec ça, je suis des autres.
Mais, et autre élément aussi, en faveur du coup d'un outra, enfin, du côté outrancier de l'outil. Non, mais c'est. Moi, je suis outré qu'ils aient osé faire ça.
Outrageant.
Outrageant, oui. Lorsqu'on fait du reverse engineering, c'est le cas du projet Wine, par exemple, l'émulateur Windows sous Linux. Quand on fait ça, c'est un travail qui est très compliqué. Il faut au minimum, toujours au minimum, deux personnes. Une personne qui analyse l'exécutable de départ, donc qui n'a même pas accès au code source, qui a accès à un exécutable, et qui va le désassembler, et qui va rédiger une documentation. Et ensuite, la personne qui veut l'implémenter va prendre la documentation et l'implémenter pour mettre une barrière stricte entre le code de départ qui ne doit pas être copié parce qu'il est sous licence, il est protégé par une licence commerciale quelconque, et ça, il faut un tampon entre ce code-là et le code libre derrière.
Il faut une stricte séparation des cerveaux.
C'est ça. Et là, ben, ils s'en sont complètement foutus. Ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Et donc, il y a eu pas mal de débats. Il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah ouais, mais non, GitHub Copilot, c'est trop bien et tout. »
On va s'écrire le code à ta place, forcément.
Ah oui, voilà, oui, truc de feignasse. Et donc là, il y a enfin une class action qui a été lancée. Donc elle a été lancée le 3 novembre. Donc on verra le temps que ça prendra et tout, hein, mais j'ai hâte de voir le résultat de ça, parce que pour le coup, c'est un sujet qui va être très compliqué. Il y en a eu d'autres échos dans la presse, dans la presse spécialisée en tout cas, sur d'autres thèmes, notamment sur la possibilité d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire du plagiat scientifique, avec des résultats assez impressionnants. Donc, à suivre, je pense que c'est l'une des premières fois qu'on va voir une attaque contre l'intelligence artificielle sur la base d'une violation de copyright dans la production de l'intelligence artificielle.
On met toujours des choses sur le dos, les algorithmes, l'intelligence artificielle. Là, ce qui est coupable, en fait, c'est pas tant l'intelligence artificielle, c'est la base de données utilisées.
Exactement. Oui, si, c'est sûr que si c'est un logiciel qui tournait sur votre machine et qui prenait que votre code pour faire des décisions, pourquoi pas? Si ça respectait la licence, si ça dit, ah ben alors là, par contre, tout ce que je te colle là, c'est inspiré de code qui est sous licence GPL, machin, ça serait inutilisable.
Souvent, c'est l'IA, c'est l'AI, c'est l'algorithme, oui. À la base, c'est toujours les données.
Ouais. C'est l'apprentissage, effectivement. Pardon.
Le fisc est à l'assaut des fraudeurs sur Internet. Oui, effectivement, maintenant, grâce à des analyses de données... vidéo aérienne, d'images aériennes, je sais pas si c'est Maps ou s'ils utilisent des outils de l'IGN, ils peuvent détecter donc typiquement un carré bleu correspondant éventuellement à une piscine qui n'aurait pas été déclarée à l'administration fiscale.
Exactement. Et du coup, là, ils ont l'intention de travailler pas mal sur différents thèmes. Donc, ce que j'adore, c'est les noms. Du coup, ils vont faire du data mining, du web scrapping et du fusil matching. Comme s'il n'y avait pas de mots en français pour dire des choses.
Hein, c'est vrai qu'en plus, la piscine, typiquement, c'est un truc carré bleu. Tu vois, c'est comme... Je pense que... Alors, je ne suis pas du tout expert en intelligence artificielle et en analyse d'image, mais bon, je pense que ça ne va pas être la chose la plus compliquée. Tu as une route autour, tu as un truc qui ressemble à une maison. Je pense qu'il y aura un pattern de ce qu'est une maison, à peu près, ce qu'est un bâtiment d'habitation. Donc, je pense qu'ils peuvent bien se faire plaisir avec ça.
Du coup, dans les projets qu'ils ont, ils ont la collecte massive de tout ce qui est facture avec les projets de facturation électronique obligatoire.
Rappelons, on l'a dit il y a 4 semaines, hein, qu'ils voulaient étendre le FICOBA, le fichier des comptes en banque avec l'intégralité de vos transactions.
Hein, ouais, c'était.
Et là, il y a un ou deux ans, le ministre de l'Intérieur, qui est actuellement ministre de l'Intérieur, qui était ministre de l'Économie et Finances, le regrettable maire de Tourcoing, dont on ne citera pas le nom,
on n'a pas envie de faire la promotion des ordures.
J'ai pas envie de salir mon micro, avait annoncé tout fièrement qu'ils allaient chercher sur Facebook les éventuelles personnes qui ne déclareraient pas toutes leurs ressources au fisc.
Laisse-moi l'ordre de maths. Mon actualité, ah, puisque effectivement c'est le point suivant. Donc ils vont prendre toutes les factures électroniques, ça c'est leur partie data mining. Ils ont le web scrapping, donc data mining, collecte de données, hein, en français, web scrapping, analyse de page web automatisée, voilà. Et là on comprend ce que c'est, alors que web scrapping c'est déjà moins clair. Et donc le web scrapping, donc leur objectif est très simple, ils vont faire des petits programmes qui vont se promener sur les réseaux sociaux et qui vont comparer un peu les photos, les actualités des gens avec ce qui a été déclaré. Tiens donc, c'est marrant, lui, il se vante d'avoir acheté une nouvelle voiture de luxe et pourtant il nous déclare seulement 1000 euros par mois.
C'était très précisément ce qu'il avait dit en plus.
Je sais.
Le maire de Tourcoing, si on vous voit au volant d'une Lamborghini, pardon pour la marque, et que vous êtes au RSA, c'est peut-être la voiture de votre frère, mais peut-être pas. Et on va vérifier.
Voilà, et du coup après ils vont essayer de s'amuser à croiser les données étrangères pour retrouver plus facile, et c'est là où ils vont dire qu'ils ont sorti le mot fusil matching. Alors le fusil matching, c'est très simple, hein, c'est la correspondance approximative. Si sur un formulaire il est écrit Alexandre Storo, eh ben on peut dire ouais c'est bon, c'est celui qui est à côté de moi, parce que on corrige, il y a pas de problème, c'est à peu près, c'est bon, ça passe. C'est tout con, hein. Et vous utilisez tout le temps lorsque vous tapez une adresse, lorsque vous envoyez un courrier postal, il y a du fusil matching derrière, puisque vous pouvez faire des erreurs sur les adresses, vous pouvez mal écrire, et derrière c'est quand même expédié, magie.
Alors, on va quand même rappeler qu'on n'a pas spécialement de tendresse pour les fraudeurs fiscaux.
Enfin, non, par contre, gros,
mais quand même, il y a des atteintes à la vie privée. Voilà, c'est la lutte légitime contre la fraude fiscale. Surtout, alors, je dirais surtout le gros fraudeur et pas forcément celui qui est le plus inquiété là-dedans.
Ben voilà, moi, c'est ce qui m'emmerde. C'est là, c'est on ne cible que des fraudeurs particuliers quasiment avec tout ça. Il y a la partie sur la facturation électronique pour la fraude à la TVA qui peut être intéressante. Mais par contre, cibler les entreprises qui exploitent tous les trous possibles pour partir dans des paradis fiscaux, ce genre de choses, exploiter, enfin, tous les exploitants, eux, non, on va pas en parler. On va pas les cibler.
On va terminer la partie Internet et vie privée par une nouvelle un peu plus réjouissante, même si le fond n'est pas forcément très réjouissant, mais au moins la réponse elle est, c'est que l'entreprise américaine Clearview AI. Compliqué l'anglais.
Clearview AI,
merci Pierre, a été condamné donc par la CNIL à une amende de 20 millions d'euros. Alors que fait toujours cette charmante entreprise, c'est qu'elle collectait en fait, elle faisait du web scrapping, de la collecte automatisée en ligne de photographies de personnes, le tout en fait pour utiliser un site pour fournir un service en fait dans lequel vous fournissiez la photographie d'une personne et elle retrouvait qui était cette personne. Ce faisant, ils s'étaient appropriés, disait la CNIL, plus de 20 milliards d'images à travers le monde, et cela viole de manière phénoménale le RGPD, le règlement général pour la protection des données. Vous savez, ce texte, beaucoup d'entreprises ont pleurniché. Oui, ça va mettre à mal notre business model. Heureusement.
Ben celui-là,
heureusement qu'il le met à mal. Effectivement. Donc, à partir des photographies qui ont pu être récupérées sur vous sur Internet, alors, ça prenait les photographies uniquement sur les pages web qui étaient accessibles sans avoir à s'identifier au préalable, donc celles qui sont en accès libre, donc sans connexion. Donc la CNIL a fait d'abord une mise en demeure 2 mois avant la sanction et devant l'absence de réponse de Clearview, ils ont prononcé cette sanction. Donc principal point d'achoppement, c'est qu'ils collectaient des données personnelles sensibles. Donc c'est d'ailleurs la CNIL le rappelle, hein, c'est des caractéristiques biologiques. Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de très sensible, et ils collectaient ces données sans le consentement des personnes. Donc, heureusement, voilà, il y a quand même encore des garde-fous qui existent là-dessus, bon, même si on sait qu'il y a pas mal d'élus qui misent beaucoup sur la reconnaissance faciale. Hashtag Christian Estrosi. Ah, lui, voilà. J'ai donné le nom, pardon.
On peut, celui-là, oui.
On continue avec des nouvelles logicielles. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Radio Nowhere, Molotov Heart. Vous écoutez Code Igloo sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
Got a warning from a friend. Let's pretend he didn't mention your name. She's just waiting, detonating to show you explode. I go up in flames, and you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline. Got me thinking high octane. Tell me plain, do you want me to go? You're bartending, guess it's ending. Mix it up, fill my cup. You know it's gonna blow. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline. You're putting a match to my fuse.
drumming, hear them coming. I can tell the rebellion's about to start. Should've known, overthrown. Get your gun, I won't run. It's a shot to the heart. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline, and you're putting a match to my fuse. And you say it's okay, but I wonder if you mean it. When every song that you sing is the blues, fill me up to the top. Don't you stop with gasoline, and you're putting a match to my fuse.
C'était Radio Nowhere, Molotov Heart. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités et on va parler de nouvelles logiciels, des sorties logicielles en pagaille, en voiture, en voilà. Et comme le gnou, il n'est pas sectaire, on va parler d'OpenBSD.
Oui, ben oui. Ah, un peu de genèse de notre émission. C'est nos parrains.
C'est nos parrains.
Voilà, c'est nos parrains.
On a quand même bien survécu.
On leur a bien survécu. Donc, nouvelle version d'OpenBSD. Pardon. Nouvelle version d'OpenBSD.
Il n'a pas fait exprès de s'étouffer d'ailleurs.
Hein. Non,
je suis témoin, hein. C'est pas une facétie de Pierre.
Non. Donc, nouvelle version d'OpenBSD 7.2. Alors, la 7.2, OpenBSD, c'est pas vraiment un système destiné à l'utilisateur lambda. Hein. C'est un système. Donc, la famille des BSD, c'est des systèmes Unix, des vrais, des durs. Et donc, OpenBSD est celui qui a la meilleure réputation en termes de sécurité. Donc, là, ce que je trouve d'amusant, c'est qu'ils ciblent quand même de plus en plus. Et que ce soit les BSD ou les Linux d'ailleurs, ils ciblent de plus en plus du matériel autre que le PC. Et c'est là où c'est assez intéressant. Donc là, bon, ils ciblent le Apple M2, donc la nouvelle puce spécifique d'Apple, on en a déjà parlé, et quelques autres machines que moi, en tout cas, j'espère pouvoir avoir un jour, mais en nouvelle ère, donc pas l'Apple. Et donc des machines avec des processeurs autres que les processeurs de PC. C'est toujours assez intéressant de voir ça apparaître. Donc sinon, après, dans le reste, c'est...
Ubuntu 22.10.
Voilà, Ubuntu 22.10.
La sortie saisonnière.
La sortie saisonnière, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, c'est des mises à jour un peu partout. C'est pas une nouvelle version en mode support à long terme. Ça, c'était la précédente. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... ils mettent tout à jour, ça progresse sur le passage à... alors là, c'est GNOME 43 maintenant. J'ai pas suivi leur changement de numérotation, je sais pas ce qu'ils sont devenus là.
J'utilise Cinnamon, moi, sur
mon... Okay. Donc voilà, des mises à jour un peu partout, c'est toujours intéressant à prendre. Et une... alors ça, ce genre d'actualité, j'en parle pas trop d'habitude parce que c'est vraiment pas intéressant, mais là, il y a eu un changement assez majeur sur ce projet et ça mérite, je trouve, d'en parler. Il s'agit d'une nouvelle version du langage de programmation Python, la 3.11.
C'est que là, comme ça, ça ne s'attend pas à une version majeure.
Non,
la version majeure, c'est Python 3.
Oui, c'était Python 3, la version majeure. Mais ce qu'il y a de majeur, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme au sein de l'équipe de développement du projet. Et j'ai envie de dire, bordel, il y était temps. Parce que ça piquait sévèrement. Python était réputé pour avoir un problème majeur. C'est un langage de programmation qui est facile à utiliser. Il y a plein de modules dans tous les sens pour faire plein de trucs. Très pratique. Et il y a un bon gros défaut majeur, c'est les performances. C'est-à-dire que c'était quand même bien lent.
Est-ce que c'est pas juste... enfin, on a fait un petit peu de cours d'informatique pendant nos études et c'est un langage interprété.
Oui, mais le Lua est un langage interprété qui est très rapide. Et sans déconner, hein, le Lua est extrêmement rapide. Le problème, en fait, c'est que Python, il y a un ensemble de choix qui ont été faits, et l'un des choix primordiaux qui avait été fait, et qui était valable jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de dire la priorité, c'est la simplicité et la maintenabilité du code de l'interpréteur, pas les performances. On s'en fout. Si un truc pour les améliorer les performances mais nuit à la lisibilité ou augmente la complexité du code, on le refuse. Ils ont enfin accepté de sortir de cette logique. Python étant l'un des langages les plus utilisés au monde, j'ai du mal à concevoir le nombre de mégawatts qui ont été perdus à cause de cette logique.
Comme c'est très utilisé, on peut considérer qu'il y a suffisamment aussi de personnes compétentes, capables d'analyser un code un peu plus compliqué et que ça vaille le coup d'améliorer les performances au prix d'une lisibilité du code qui soit moins bonne.
Voilà, mais c'était un dogme qui s'était fixé et qu'ils ont enfin accepté d'en sortir. Et alors, pour le coup, on va pas cracher dans la soupe, le projet d'accélération du langage Python a été poussé par Guido van Rossum, qui a été donc le fondateur de Python, qui a été embauché chez Microsoft en tant que ingénieur honorifique, je sais plus quoi. C'est un titre honorifique et on lui a donné carte blanche pour mener des projets et du coup il a recruté des personnes pour faire ça. Donc voilà, c'est pas
en général, quand t'as quelque chose d'honoraire ou honorifique, c'est que tu l'es pour le symbole, mais tu...
Il est à la retraite, hein,
pas vraiment. Ah d'accord.
Ouais, il est vieux, pépère. Il a inventé Python à la fin des années 80 quand même. Hein.
C'est pas fou.
Ça commence à dater. Sinon, autre nouvelle logicielle. On en a quelques-unes. Il y en a une qui m'amuse beaucoup. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler, Alexandre, du JPEG XL ? Le JXL ?
Non, je t'avouerai que tu me l'apprends.
Voilà. Donc, le JXL, quoi qu'est-ce que c'est ? En fait, le format JPEG, faut bien comprendre, c'est vieux. C'est très vieux. Ça date du début des années 90. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Qui ne sont pas faisables en JPEG parce que
ça reste un des formats les plus courants pour les images en ligne.
Exactement. C'est le format le plus courant pour une photo, en tout cas en ligne. Tous les appareils photo que je connaisse quasiment utilisent ce format-là. Sauf que, il est vieux. Il a des limites. Alors, il y a déjà eu des projets pour passer outre ces limites. Il y a eu le JPEG 2000 notamment, mais qui avait son lot de problèmes. Et là, le JPEG XL, c'est le consortium JPEG. De mémoire, c'est un consortium qui a développé cette norme pour essayer de répondre à tout un ensemble de problèmes. Et ça avait commencé à être intégré notamment dans Google Chrome. Et Google a annoncé, c'est fini, hop, on l'enlève. Donc, au revoir. Le JPEG, maintenant...
C'est le problème des positions dominantes. Voilà. Peut avoir comme ça le droit à vie et de mort sur une technologie.
Sachant que Google préfère le format WebP2, c'est eux qui l'ont fait. Donc on préfère le nôtre. Je trouve ça affligeant. Et
l'entreprise profite de sa position dominante pour imposer un format.
Ben oui,
c'est pas...
Ah mais c'est que des formats ouverts, monsieur. Bon. Ah mais c'est... Mais sauf
on va dire, que c'est un progrès par rapport aux années 90.
C'est ça, oui. Mais en plus, avant, on avait la possibilité de faire des plugins dans les navigateurs web pour ajouter ce genre de choses. Maintenant, ils ont tout bloqué ça. Donc, merci. Voilà, le format a été tué par Google. J'ai failli dire par Microsoft.
Pierre, tu vas annoncer que je ne pourrai pas mettre sur mon premier PC, donc je ne sais plus depuis longtemps, la dernière version du noyau Linux.
Oui, bah... Ça, je trouve ça assez amusant de dire que on est en 2022. On est en 2022 et Linus Torvalds a annoncé qu'il souhaite supprimer le support des processeurs 486 du nouveau noyau Linux. Alors les processeurs 486, c'est des processeurs qui ont été introduits sur le marché en 1989. Ça date de 89. Mise à la retraite définitive a eu lieu en 2007. C'était encore utilisé dans du domaine très spécifique. Et nous sommes en 2022. Ça fait plus de 15 ans qu'on ne peut pas en trouver des neufs, normalement. Enfin, sur les circuits Intel, en tout cas, on peut en trouver encore quelque part en creusant. Mais aujourd'hui, on peut franchement plus faire grand-chose avec ça. Et c'est seulement, du coup, aujourd'hui que ça disparaît du noyau Linux, alors que des gens comme Microsoft... le support de vieux processeurs, même le Pentium 3, ça fait longtemps
ouais,
ça qu'ils l'ont abandonné.
Ça veut pas dire que le 486 est inutilisable, c'est juste qu'il faut utiliser une ancienne version. Et d'ailleurs, en fait, ces supports sont plus ou moins théoriques, parce que, bon, c'est pas tout d'avoir le noyau. Il faut avoir la suite logicielle derrière, la distribution logicielle capable de... Voilà,
c'était encore faisable.
Qui soit maintenu.
C'était faisable, largement.
Alors, compiler soi-même sa propre distribution, c'est quand même compliqué d'utiliser, même... Pierre recherche, je le vois.
Ouais, je me demande si Debian ne supportait pas encore le 486.
Oui, mais voilà, Debian le supporte, mais après, il faut réussir à faire tourner quelque chose, autre chose qu'un bash, quoi.
Oui.
Et c'est bien. Mais...
Après, c'est... Faire survivre des vieilles machines, pour certains cas, c'est indispensable. En industrie ou ce genre de choses.
Tu vas trouver un noyau récent avec une interface graphique.
Ah bah oui, c'est sûr.
Bon, ça va supporter les interfaces graphiques. Hein. Ouais, j'avais Windows 95, toi aussi, sur un 486.
Non, moi sur un Pentium 2. Sur le 386, c'était Windows 3.1.
Ah, encore toi. Pour...
Hey, j'ai connu la bonne époque. Donc oui, Debian gère encore le 486. Mais ils disent on va plus supporter longtemps. Hein.
Ça serait, je serais curieux de savoir. Déjà, tu peux installer Debian sur 486, mais au final, qu'est-ce que tu installes comme brique logicielle dessus?
Je suis sur une vieille version de Debian. Donc, si ça se trouve sur les versions plus récentes, c'est plus géré.
Bon, oh, Pierre, quelle est la dernière actu sortie logicielle que tu veux traiter avant la pause musicale?
Une intéressante, c'est que Nate Graham, qui est un développeur. KDE a rejoint KDE EV, donc la fondation qui chapeaute la partie juridique et pas commerciale mais monétaire, on va dire, du projet KDE. Et la plateforme, on va dire, sur laquelle il a été élu, parlons politique, la plateforme sur laquelle, sur laquelle il a été élu, c'est de réussir à obtenir plus de développement financé par des entreprises ou des tiers, par des sponsors, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose.
C'est bien de l'annoncer, mais après, il faut avoir des...
Il est déjà derrière, notamment, le financement en partie de KDE par... Alors, je ne sais plus si lui, il a touché avec Valve et le projet Steam, donc la console Steam qui tourne sous KDE Plasma, et du coup, Valve a injecté pas mal d'argent dans le projet KDE. Je ne sais pas s'il est lié aussi au projet, alors je ne sais plus avec quel fabricant de PC portable où les PC sont vendus directement sous Linux. Ce genre de projet existe. Et c'est bien, du coup, d'avoir quelqu'un qui dit bah, « c'est une priorité, il faut les développer ».
Merci Pierre, on va écouter un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter « Talking Cure of Beauty and Love ». Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. My birds are singing so loud that I am feeling blue. The sky is so pure that I feel a void. That's spitting on my soul. I'm as empty as a drum. The sunshine, the weather is fine, but I can't believe it's true. It's a beautiful day. Don't let it get away. I will always be beside you. I will always be true. I'm looking for your country, where we could live beyond the seas. I'm dreaming of you. I'll bring you to my wonderland. My birds are feeling so sad that they are singing the blues. The sky is so definitely pure that I down. I'm as empty as a drum. The sun cries, the summer is out, but I can't believe it's true. It's a beautiful day. Don't let it get away. I will always be next to you. I will always be yours. I dream so often of you that you lost your reality. I am the shadow on the sundial of your life.
but my heart belongs to you. I love the sweetness of your eyes, the kindness of your gaze, the fragrance of your hair. When I'm half asleep on my feet, the only real thing is you. It's a beautiful day, don't let it get away. Beyond all the appearances of life, the only truth is all love. And you, do you hear the voice that says the winter won't be long? Do you hear the voice that lead us into happy days?
C'était Looking Hero of Beauty and Love. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusville.com. C'est la troisième et dernière partie des actualités. Ça va être des news diverses et variées. Et Pierre va nous expliquer pourquoi c'est important de pouvoir mettre à jour.
De pouvoir mettre à jour. C'est bien important, hein. Tu l'as bien dit, hein. Mais pouvoir mettre à jour. Il y a eu une faille de sécurité, alors... assez importante mine de rien sur le noyau Linux, sur le Wi-Fi, avec la possibilité en fait d'avoir des actions malveillantes à distance. Alors j'ai pas regardé le type de faille derrière, c'est des buffer overwrites, donc ça peut provoquer ça pourrait aller jusqu'à de la prise de contrôle à distance de machine, ce qui est vraiment le top en termes de faille, c'est pas terrible. Et il y a aussi des failles de plantage. Et donc, lorsqu'on se connecte à un réseau Wi-Fi, si on a un système qui n'est pas mis à jour, eh bien, un routeur malveillant, un autre utilisateur du Wi-Fi malveillant pourrait attaquer notre machine. Alors, ce genre de faille, ça arrive tout le temps. Hein, tous les systèmes, parce que c'est compliqué, on ne peut pas tout faire correctement, c'est quasiment impossible. Mais là où je trouve que c'est assez intéressant, c'est que là, ben, on est quand même sur une faille relativement facile d'accès, qui touche la gestion du Wi-Fi sous le noyau Linux. Et moi, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer pour tous les gens qui ont des téléphones portables, Android ou autres, et qui ne peuvent pas faire la mise à jour? Et attention, c'est pas l'utilisateur qui ne peut pas faire, enfin qui ne veut pas faire la mise à jour. C'est vraiment la mise à jour n'est pas proposée par le fabricant du téléphone, soit parce qu'il en a déjà plus rien à foutre de ce téléphone-là, ça fait plus de 3 mois qu'il est en vente, c'est bon, on est déjà passé au modèle suivant, ou pire encore parce que le fabricant du téléphone lui-même n'a pas la main sur la mise à jour.
C'est le problème des téléphones portables par rapport aux ordinateurs, aux distributions Linux. Vous avez deux filtres, vous avez le filtre d'Android, il faut que Android corrige la faille, il faut aussi que votre fabricant distribue la mise à jour.
Et non, il y a un troisième filtre.
Il y a un troisième filtre.
Il y a un troisième filtre, et oui, c'est là où c'est vraiment de la merde. Il y a trois filtres. Il y a effectivement Android, le fabricant de téléphone,
l'opérateur éventuellement.
Non, on n'en parle plus, celui-là, c'est bon, hein, on va c'est arrêter. Bon, c'est bon.
Alors, ils
ont fini ces conneries. Le fabricant de la puce, le fabricant du SoC, le processeur du téléphone portable.
Oui, il est en amont du fabricant, du coup.
Qui est en amont du fabricant et qui, lui, en a encore moins à foutre et qui n'est pas concerné lorsqu'on leur dit attention, il faut faire des mises à jour pendant X années. On va demander ça au fabricant du téléphone, mais le fabricant du téléphone, il ne retransmet pas la consigne au fabricant de la puce. Ou il s'en fout.
C'est quand même l'avantage d'avoir des processeurs plus ou moins standards sur les PC.
Les processeurs des PC sont complètement standards, alors que sur un téléphone portable...
C'est votre matériel, et vous ne dépendez que du logiciel. Si
exactement.
C'est une distribution Linux, ou on va dire une distribution ligne, hein, que ce soit les BSD également, hein, les mises à jour de sécurité sont quand même faites régulièrement, et les failles sont vite patchées.
Et du coup, là, on tombe sur... Ben, on en a déjà parlé dans une émission relativement lointaine. Les fabricants de SoC, et ben, les fabricants des SoC les plus bas de gamme, il n'y a pas d'autre mot, les Mediatek ou autres, ils mettent carrément moins à jour que les plus gros. Les Qualcomm, je crois, notamment, ils mettent quand même assez correctement à jour. Mais encore faut-il que le fabricant se dise « Tiens, une mise à jour, je vais l'appliquer !» Et que derrière, ça passe toute la chaîne. Donc... moi, j'aime bien voir ce genre de failles. Ça rappelle à quel point le monde des téléphones portables craint un peu. On continue avec une autre actualité.
On continue avec Lennart Pottering qui veut reprendre, qui veut revoir le boot de Linux.
Oui, parce qu'il avait déjà tout cassé après et il veut tout casser avant. Beaucoup plus sérieusement. J'aime bien son travail, mine de rien. Donc
je cherchais en fait. Je sais que Samsung a également ses propres socs également.
Oui.
Là pour le coup,
je sais plus
lesquels. Là pour le coup, au moins ils sont indépendants. Même si c'est pas forcément ceux qu'ils utilisent pour tout leur téléphone. Ah bref, tout je referme fait. La parenthèse.
Et donc Lennart Pottering est donc assez connu dans le monde des techos Linux, on va dire. C'est celui qui a créé Systemd, donc qui a remplacé tout ce qui existait avant quasiment sur le démarrage d'un système Linux. Du coup, quoi qu'il veut le monsieur quand il dit je veux remplacer le boot de Linux. Mais en fait, c'est clair, il veut remplacer ce qu'il y a avant le démarrage du noyau Linux. Il considère que l'existant a un ensemble de problèmes et il aimerait bien qu'on puisse avoir un système plus fiable et on va dire avec de l'informatique de confiance, même si ça a ses gros défauts, il y a des avantages pour certains usages, notamment en entreprise ou même.
Ça contient le Grub notamment, l'amorçage.
Ah oui, il veut détruire Grub lui.
D'accord.
Oui. A plus Grub.
A plus.
Mais a plus initramfs. Enfin si, mais plus du tout de la même façon. A plus, il y a tout un ensemble en fait. Le démarrage d'un système Linux, ça reste un château de cartes qui a été construit dans les années 90, qui a été délicatement soulevé pour être posé sur les PC modernes avec un EFI, mais ça reste un château de cartes. Il y a des tas de solutions. Moi, ça m'arrive quand même malheureusement assez souvent de trouver des personnes. On a dû faire tel ou tel changement de configuration, et puis avec le temps, ça a provoqué des dégâts sur le système de démarrage, et puis ma machine elle ne démarre plus. Et merde, voilà, je me déplace pour juste pas. Oui, la machine, il n'y a plus de place sur la partition de boot, et la dernière mise à jour, ça a foiré. C'est con. Ce genre de problème ne devrait plus exister. Et Lennart Pottering propose un ensemble de solutions. Alors, c'est relativement vaste. Il y a beaucoup dans ce qu'il propose, mais notamment pour régler ces problèmes-là. Et je trouve ça bien qu'il y ait au moins une personne qui en parle et qui propose des choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Une dernière brève avant la dégeekalisation, Pierre.
Ah ben là, dans ce cas, on va parler de l'heure d'hiver. Ça m'amuse toujours.
L'heure d'hiver, oui.
C'est...
Les box SFR qui ne se mettent pas à jour.
Oui.
On a vu la même news sur Linux SFR.
Ouais, mais si avec les box SFR, évidemment. Mais voilà, c'est... Une box SFR, l'affichage de l'heure dessus, il fallait éteindre complètement la box, électriquement, et la redémarrer pour que ça se mette à jour. Moi, je comprends plus à force. Je sais plus dans quel monde
on vit. Tu connais ça pour mettre à jour le firmware ?
Je crois que j'en ai déjà parlé ici parce que ça me dépite de voir ce niveau d'incompétence sur ma voiture. J'ai dû aller dans mes paramètres pour dire on est passé en heure d'hiver. C'est un système Android. C'est un Linux complet. Ils ont toutes les infos, ils ont toutes les données de base. Mais dans leur surcouche, ils ont besoin de se faire chier à afficher ça. Le passage à l'heure d'hiver devrait être un non-événement depuis plus de 15 ans.
Ouais, c'est bon, parce que l'heure native de la voiture, elle se met pas à l'heure. Par contre, j'ai la bonne heure, en fait, quand je branche mon téléphone Android.
Ah ouais,
sur Android Auto. Là, du coup, l'Android Auto affiche la bonne heure. Après, c'est normal, hein, t'es pas forcément de communication entre, le système de la voiture et l'Android Auto. Et du coup.
À partir du moment où un système connaît la date, il peut savoir si on est passé en heure d'hiver ou heure d'été. Parce que c'est connu. En fait, les dates ont été fixées. Alors, je connais plus la règle. Hein, autre chose à faire que de retenir ça. Mais c'est fixé depuis plusieurs décennies. C'est complètement prévisible. Mais c'est pas grave.
Par contre, ça anticipe pas forcément les changements d'avis des gouvernements sur la question.
Non, mais vu qu'ils ont toujours pas prévu de le supprimer. On a de la marge.
On retrouve la dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Leverwood. Lynn, vous écoutez les côtés gnous sur Radio Campus 106,6, campus6.com et la radio numérique terrestre.
So I cling on to you.
C'était Levy Road, Lynn. Vous écoutez Côté Gnou sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre dans la métropole lilloise et campusil.com partout dans le monde. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, le sujet du jour, pour la défense des dinosaures, parlons mainframe.
Tout à fait. Parce que je suis tombé sur un article récemment, alors c'est très très technique, hein. Je vais pas vous en parler directement comme ça parce que ça ne parlera à personne et rien que pour
on
expliquer.
On aura perdu les 4 auditeurs restants.
C'est ça, il faudrait déjà 2 heures pour introduire le concept, même au sein d'une formation en informatique, il faudrait passer un certain temps déjà pour introduire les concepts qui sont utilisés là. Mais prenons un peu de recul encore plus. Qu'est-ce que c'est le concept ? Alors là, ça parle de mémoire taguée. Alors, on va laisser la partie vraiment technique, qu'est-ce que c'est, etc., de côté. Qu'est-ce que ça peut apporter, par contre ? C'est une idée toute bête. C'est que un ordinateur, c'est une grosse calculatrice. Grosse calculatrice. Mais du coup, quelle est la différence entre 72 et 72 ? Il n'y en a pas. C'est la même chose. Sauf que, et c'est l'une des sources de failles de sécurité majeures aujourd'hui dans l'informatique, le premier 72, c'était en fait une adresse mémoire. C'était un pointeur en mémoire. Et le deuxième 72, ça c'est juste un nombre, voilà, c'est comme ça. Et on a des millions de failles de sécurité, des problèmes majeurs qui ont été introduits, parce que, c'est bon, une adresse mémoire c'est un nombre, voilà, on va pas se prendre la tête. En fait, il y a eu un ensemble de choix qui ont été faits dans l'informatique dès les années 70, les années 80, et qui ont amené toute une évolution dans un sens. Et pendant ce temps-là, les vieux dinosaures, les mainframes, les AS400, les IBM i, ce qui fait tourner les banques, ce qui fait tourner les assurances, enfin ce qui faisait tourner les banques, parce que certaines sont sorties de ça d'ailleurs, à défaut je trouve, ce qui fait tourner tout ce monde-là, c'est des putain d'armoire, c'est des trucs énormes, mais vraiment, c'est les trucs qui ne tombent jamais en panne. Ça ne peut pas tomber en panne quasiment, c'est un défi. Allez-y, faites tomber en panne. C'est-à-dire que il y a une lampe rouge qui s'allume, ah ouais, il y a un processeur qui est en panne. Voilà, il tourne très bien le système. Il faudra juste venir, tirer sur le carton, enfin sur le caddie, on enlève le processeur, on branche le nouveau. Hop, une commande d'administration et c'est validé.
C'est l'époque où l'ordinateur était essentiellement considéré comme un outil pour les grandes administrations, les grandes entreprises, comme un outil industriel.
Et surtout comme un outil qui doit marcher, bordel. C'est pas normal que...
C'est les années 90 hein, qui ont introduit le « Oh, l'ordinateur s'implante, c'est l'informatique, ma petite dame
ben !» oui.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Et les mainframes ont introduit tant de choses qui aujourd'hui nous font tellement défaut. Exemple, tout bête. Les mainframes, vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous possédez un mainframe qui a été acheté dans les années 80, et vous dites, ah, quand même, il serait temps de mettre à jour. Vous pouvez aller voir IBM, ou son revendeur, je ne connais pas trop les noms des entreprises dans ce domaine-là, et leur dire, bonjour, je voudrais la dernière version du mainframe, là, et puis je vais tout transférer ce que j'avais de l'époque, et je vais le transférer dessus. Tous les programmes qui avaient été écrits dans les années 70 ou 80, eh ben, ils vont marcher pareil. Mais pourtant, c'est plus du tout le même type de processeur, c'est plus les mêmes capacités techniques, etc. Mais en fait, déjà à l'époque, des concepts comme les machines virtuelles, alors maintenant tout dans l'entreprise c'est un concept, c'est, il y a, alors on a passé la phase de c'est une innovation, c'est génial, ça c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans c'était machine virtuelle c'est génial, la virtualisation ça sauvera le monde, ça, c'était il y a 10 ans à peu près, et ça c'était déjà là dans les mainframes, c'est juste que tout le monde avait oublié, voilà, c'était une technologie qui fonctionnait très bien et ouais c'est bon, c'est pas important, c'est pas grave. Les mainframes ont introduit la notion de bytecode et de compilation non plus dans le langage machine mais dans un langage intermédiaire, et derrière lorsque vous lancez un programme, en fait vous lancez pas un programme qui parle le langage de votre machine, vous lancez un programme qui parle un langage abstrait et qui est traduit à la volée vers le langage de votre machine. Et ça, cette technologie, il y a Microsoft a fait dans la première décennie des années 2000 de mémoire, ils ont eu un projet où ils ont travaillé là-dessus et ils avaient des gains en performance phénoménaux. Ils avaient des avancées en sécurité géniales. C'est resté dans leur labo de recherche parce que on veut pas changer l'existant.
C'est un peu aussi l'histoire, c'est qu'à la base, l'IBM PC, c'était un projet pas pris au sérieux. La réussite du PC, c'est presque un accident, quoi.
C'est un accident, c'est un
échec. Ils ont fait un peu un truc bricolé à la va-vite, en prenant un petit éditeur de logiciel, le Microsoft qui a rafistolé un truc fait vite fait, le Quick and Dirty Operating System.
Qui a racheté un truc vite fait et qui l'a bricolé.
Et qui l'a fourgué à Microsoft, mais voilà, le marché sérieux pour IBM à l'époque, c'était justement ces gros mainframes.
Et en fait, c'est une mine d'or, ces trucs-là, pour savoir peut-être ce qu'on va peut-être enfin faire dans les 5 à 10 ans. Ça m'amuse beaucoup, du coup, de fouiller un petit peu là-dedans. Peut-être qu'on trouvera, on prendra enfin les solutions qui avaient été imaginées et qui sont en place et qui fonctionnent pour lutter efficacement contre tout un ensemble de bugs qui créent des failles de sécurité aujourd'hui.
À l'époque, c'était pas la course forcément à la dernière innovation, c'était la fiabilité qui était importante. C'est pour ça que c'est encore utilisé dans les banques. C'était le 242e numéro de l'écho des gnous. On se retrouve dans 2 semaines pour le 243e numéro. On sera le dimanche 20 novembre de 19 à 20h comme d'habitude. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento et il ne nous reste plus à Pierre et à moi qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Au revoir à tous.
Au revoir.
Dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glisses.